Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Très bien, quelques dossiers montréalais. D'abord, vous êtes très nombreux à nous écrire au sujet des branches, des centaines, des milliers de branches qui traînent toujours au sol dans les différents arrondissements. Mon collègue Frédéric Labelle va regarder de plus près la situation d'Outremont, qui est un des arrondissements qui a été le plus touché. Puis là, les gens, la question est bien simple, là. Me semble que c'est long. Et pourquoi? D'abord, sérieusement, là, malgré des efforts titanesques, essayer de découvrir quelqu'un qui a la responsabilité de cette opération dans la ville, c'est à peu près impossible. On se passe la rondelle entre le responsable des parcs, les travaux publics. Là, après ça, on nous explique, ça varie selon les arrondissements. Puis vous allez voir avec Frédéric, on a été pris pour négocier une entente avec les cols bleus. Hier, Alexandra, la productrice, a parlé avec le syndicat des cols bleus. Puis là, c'était compliqué. Puis là, on peut pas aller vous parler de ça ce matin. C'est toujours d'une complexité, la ville de Montréal. Ce qui fait que j'ai l'impression, c'est une impression, mais que ça va prendre encore des semaines avant d'être capable de ramasser ces branches qui traînent, je vous le rappelle, quand même depuis 20 jours. Puis là, on s'attend pas là à ce que ça disparaisse en l'espace d'une semaine. Puis je vois des opérations, parc Jeanne-Mance, le parc du Mont-Royal, mais dans des rues, c'est encore là des centaines et des centaines de branches là qui n'ont pas été ramassées. Il me semble qu'il y a quelque chose là, puis là, ça prend une formation. C'est toujours compliqué avec la ville de Montréal, donc on va vous parler de ça en détail tantôt. Restons dans nos réalités montréalaises, les cônes. La ministre Geneviève Guilbeault a dit hier que les cônes inutiles, les chantiers inactifs, verront les cônes disparaître après 72 heures. Je rappelle que la ville de Montréal, au terme de son grand sommet, avait décrété que ce serait 24 heures. Là, finalement, c'est 72 heures. Et ces cônes qui traînent dans les rues seront aussi donc ramassés par la ville, mais également par le MTQ. Je rappelle également, pour fin de conversation, qu'au MTQ, le porte-parole très diplomate voulait pas trop contredire la ministre, mais en disant, écoutez, c'est perdre du temps parce qu'on va les enlever, mais on sait qu'on va les ramener parce que le chantier va continuer, puis on a des chantiers qui durent des semaines et des semaines. Et l'autre nouvelle, nous aurons droit, dès que c'est possible, à des comptes plus petits. Ça va être plus joli. Puis on veut des chantiers mieux aménagés, moins tout croche, moins laid, avec des bouts de bois. Donc, des chantiers qui seront peut-être plus agréables dans le décor montréalais. Parlons maintenant de cette enseignante qui a pété sa coche. Alors, Cube Radio a obtenu cet extrait. Et ça se passe donc à l'école primaire des Grands Vents à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On va écouter un extrait des propos qu'elle a tenus. Je rappelle que ce sont des enfants là, de 6-7 ans. Puis on pourrait évidemment en entendre d'autres. Puis je peux vous dire aussi que Frédéric a trouvé d'autres cas dans des écoles où des profs hurlent comme ça. On peut tous comprendre là la pression, la charge de travail, l'épuisement, le burn-out, tout ce que vous voulez. Mais évidemment, c'est pas une façon de s'adresser à des enfants. Puis on sait que la prof s'est fait sortir, là où elle s'est sortie elle-même. Puis il y aura une enquête. Moi, j'ai beaucoup de questions là. Quelqu'un qui gueule de même, là, puis qui hurle, là, peut pas croire que les autres entendent pas ça dans l'école. Il n'y a pas d'autres profs qui ont été témoins de ça. Il y a-tu quelqu'un qui était intervenu? C'est pas juste là de jouer le scandale ce matin, de dire c'est épouvantable des profs qui parlent comme ça. C'est visiblement quelqu'un en détresse là, qui doit pas enseigner, qui doit pas être en présence d'enfants. Puis j'imagine les enfants qui voient là, l'adulte responsable hurler comme ça sa vie. Ça n'a aucun sens. Donc, il y a une enquête, puis probablement qu'il y a d'autres cas qui vont apparaître, mais tu te dis, est-ce que ça fait longtemps qu'elle est comme ça? Il y a des rumeurs. Puis là, j'irai pas puiser dans les rumeurs, les gens m'envoient, là. On va essayer de se contenter des faits. On va parler avec la responsable du centre de services scolaires. Et en parlant de l'univers scolaire, vous êtes nombreux aussi à partager vos problèmes concernant le transport scolaire. Dans les faits, il y a un paquet de grèves au Québec qui touchent le transport scolaire. Et de façon générale, malgré les millions qui ont été promis par Québec, là, rappelons-nous, je pense que c'était 112 millions pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs, les chauffeurs, hommes et femmes qui conduisent des autobus au Québec, sont sous-payés. Ils ont la responsabilité de nos enfants et c'est toujours eux et elles qui écopent finalement. Puis même si c'est emmerdant pour les parents, on peut comprendre la légitimité de leur demande. Mais dans les faits, la conséquence, c'est qu'on a des parents qui là doivent s'organiser tous les jours parce qu'il y a un conflit. Sans parler des transporteurs qui annulent à la dernière minute parce qu'ils n'ont pas de chauffeur. Sans parler des augmentations qui s'en viennent pour ce qui est du service de garde ou le service de dîneur. Il se passe des choses qui affectent beaucoup de parents, puis je comprends ça, puis vous faites bien de me dire, il y a même un parent qui m'a écrit, qui puis évidemment, il veut pas que je le nomme, là, puis surtout pas le centre en question, mais il a été, il est administrateur, membre d'un CA, d'un centre de services scolaires. Puis il dit, ça n'a aucun sens comment ça fonctionne, la gouvernance est malmenée, on nous fait voter sur des informations, à partir d'informations partielle, disons que c'est pas très très valorisant comme job. N'oubliez pas que c'est la grande messe caquiste ce soir, caucus des députés caquistes de la région de Québec, de Chaudière-Appalaches. Donc les membres des comtés doivent se réunir, en fait les députés. Puis il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Là. Il paraît qu'il y a des députés qui veulent que François Legault présente ses excuses, fasse son mea culpa. D'autres disent que les députés sont inondés de messages. Vous avez le vautour, Éric Duhem, évidemment, qui est pas loin, qui a ciblé le maillon faible de la chaîne du caucus, c'est-à-dire Éric Kerr, qui est probablement celui qui annoncerait demain sa démission, que les gens applaudiraient en silence. Je pense pas qu'il va manquer à beaucoup de monde si jamais il prend cette décision, mais les échos qu'on a, c'est que ça n'arrivera pas. Et là, on sait que Éric Duhem, il est pas fou, par exemple. Il a bien vu que c'était le gars le plus vulnérable. Et là, il veut le forcer à démissionner pour ultimement avoir une partielle dans cette circonscription et peut-être profiter de ce moment-là pour faire élire un député à l'Assemblée nationale. Alors, quand même assez intéressant de voir ce qui se passe de ce côté-là, mais c'est cette pression. Donc, le premier ministre qui va rencontrer ses députés. Également, je vais revenir sur ce dossier de Radio-Canada au sujet des fouilles complètes dans les centres jeunesse du Québec. Il y en a eu beaucoup. Ce ne sont pas des fouilles à nu, mais la commission, par exemple, des droits de la personne et de la jeunesse s'interroge sur ces fouilles. Évidemment, les centres se défendent en disant on veut trouver de la drogue, on veut trouver des parfois des armes artisanales, des jeunes qui veulent se mutiler. Donc, c'est sûr que c'est quand même nécessaire. Puis, on demande toujours aux jeunes d'abord de collaborer. Mais quand on a un doute, et ce qu'on constate, c'est que les règles sont extrêmement variables d'une région à l'autre du Québec. Puis que les informations sont quand même assez difficiles à obtenir. Également, ben, on vous parlera ce matin de la négociation des fonctionnaires fédéraux. Ça fait presque une semaine maintenant que la grève est enclenchée. On a augmenté la pression hier au port de Montréal. La présidente du Conseil du Trésor sera avec nous plus tard. Et la plupart des économistes, je dis bien la plupart, là, je regardais ça ce matin dans le Globe and Mail, disent que même si les augmentations de salaire des employés fédéraux peuvent sembler importantes. Il y a demeure pas moins que beaucoup là ont des revenus qui sont assez gelés depuis quelques années. Et on pense pas que ça aura beaucoup d'effet sur l'inflation. C'est toujours un des arguments qu'on entend. Mais que ça pourrait quand même influencer la suite des choses dans le secteur privé et que là, ça pourrait peut-être jouer. Donc, ça va être intéressant. Il y a également une enquête qui montre qu'il y a un nombre croissant de Canadiens qui se retrouvent avec des prêts hypothécaires à rembourser qui sont de plus en plus lourds. Là. Taux d'intérêt, puis là, on rembourse que les intérêts, puis de moins en moins de capital. Et puis en terminant, ben moi, je vais revenir ce matin sur toute la question la loi déposée hier à Ottawa concernant les indemnités versées aux voyageurs. Le Canada était un pays tapis pendant des années, au grand plaisir des transporteurs qui pouvaient se permettre n'importe quoi sans avoir à compenser. Marc Garneau est arrivé avec une mesure assez tiède. Et là, le nouveau ministre des Transports, Al Gabra, dit, il y a des catégories assez claires, mais les compagnies aériennes devront démontrer pourquoi elles ne peuvent pas rencontrer l'obligation de partir à telle heure et d'arriver à telle heure, puis pour ce qui est des bagages également. Il y aura des exceptions, mais limitées, une tempête de neige, un problème de t'sais, hors de contrôle, act of God, comme on dit souvent chez les assureurs, mais qu'il y a une obligation quand même de fournir de l'eau, des repas. Là, un, on verra les règlements, puis deux, quel sera l'impact de ces changements sur le prix des billets d'avion. Qui, d'ailleurs, si vous pensez à des vacances, vous allez voir en magasinant que les prix, là, wow, sont très élevés.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Alors, les fonctionnaires fédéraux sont en grève depuis pratiquement une semaine. Hier, il y a eu une augmentation de la pression avec des manifs. Blocage également, par exemple, ici à Montréal, au port, ailleurs au Canada, devant des édifices de juridiction fédérale. Et le syndicat des employés de l'impôt demande, entre autres, la démission de la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, s'il n'y a pas d'entente aujourd'hui. Elle est avec nous ce matin. Madame Fortier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan. Merci de me recevoir ce matin.
Mais la question est très simple, Madame Fortier. Est-ce que depuis les dernières heures, il y a un règlement qui est en vue? Est-ce qu'on s'approche d'une entente ou si ça n'avance pas?
Je vous dirais que les deux parties sont à la table. On continue les discussions et on va continuer à le faire aujourd'hui. Je pense que j'ai, dans ma lettre que j'ai publiée hier, partagé le fait que l'année dernière, lorsqu'on a commencé les discussions, il y avait 570 revendications. Il y a eu beaucoup de progrès, mais depuis les trois dernières semaines, depuis 2 avril, depuis la médiation, nous sommes rendus à un point où il reste quelques enjeux, évidemment très importants à négocier. Et nous travaillons très fort pour y arriver à une entente qui va être juste pour les travailleurs et en même temps raisonnable pour les Québécois et les Canadiens.
OK, ça, on est tous d'accord avec le principe, mais ce que je vous demande, est-ce que ça avance depuis hier?
Ça avance. Nous avons une rencontre prévue encore aujourd'hui à la table, puis on va poursuivre les discussions. Nous avons évidemment travaillé très fort au cours des dernières semaines, puis cet effort-là continue à se faire.
Ce que je comprends, en tout cas des propos des dirigeants syndicaux, là, il peut y avoir d'autres éléments, mais il y a deux points importants. Le salaire et le télétravail. Est-ce que vous êtes à la même place?
Mm-hmm. Nous sommes à la même conversation, oui. Nous sommes au niveau du salaire. Okay. J'aimerais partager le fait que nous avons présenté notre dernière offre qui représente la recommandation de la commission d'intérêt public qui recommandait 9% sur 3 ans. Alors, nous avons déposé cette offre-là et maintenant, nous parlons d'une possibilité d'ajout de boni, mais nous sommes rendus à cette place où nous offrons salaire qui est juste et qui permet de répondre à ce que la recommandation de la commission propose.
OK, il y a beaucoup de syndiqués qui vous écoutent, là, c'est certain, ce matin. Là, quand vous dites la hausse salariale 9 % sur 3 ans, est-ce que je comprends que vous êtes en train de discuter de garder ça à 9, mais de trouver de l'argent additionnel sous forme de boni?
Oui, c'est ce qu'on tente de trouver, des façons de pouvoir avoir une offre qui va faire en sorte qu'on représente le salaire avec la recommandation de 9 % et comme ça a été mentionné hier, il y a des éléments où on peut offrir un peu plus. L'opportunité que nous avons à ce moment-ci, c'est d'arriver à une entente, évidemment, dès que l'on peut le faire.
Pour ce qui est du télétravail, le syndicat demande à ce que ça soit encadré, bref, qu'on négocie là, le carré de sable, qu'il y ait une entente. Est-ce que de ce côté-là, vous êtes prêt de vous entendre avec le syndicat sur comment le télétravail va se faire, combien de jours par semaine?
Alors, comme c'est là, comme vous savez, les employés peuvent rester à la maison jusqu'à 3 jours pour le travail. On tente d'avoir évidemment un équilibre qui fait en sorte qu'on offre les services aux Québécois, aux Canadiens, avec le meilleur que j'appelle les deux mondes, en présentiel et de la maison. Et on rejoint aussi d'autres juridictions, d'autres, le secteur privé, qui offre cette approche de télétravail. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit démontré que c'est un droit de gestion. Donc, ne pas avoir de règlement qui est à l'intérieur de la convention collective. Ce qu'on cherche, c'est de trouver une façon à l'extérieur de la convention collective, comme on a proposé d'avoir une revue de la directive de télétravail.
OK. Pourquoi vous voulez pas que ce soit dans la convention collective, le télétravail?
Mais comme vous savez, ça veut dire qu'après ça, il y a des décisions de gestion qui vont faire en sorte que si un employé parle à fait une demande de grief, ben là, ça ralentit notre possibilité d'offrir des services. Donc nous, on croit qu'il faut que ce soit maintenu, un droit de gestion, tout en sachant qu'on peut avoir une conversation, évidemment, avec l'Alliance pour directive de télétravail. On a fait cette entente sensiblement avec les agents financiers. C'est une première entente qu'on a signée au mois de novembre, l'entente collective, et on l'a fait à l'extérieur de la convention collective pour s'assurer qu'on continue les discussions sur le télétravail.
OK, mais est-ce que ça veut dire que vous pourriez, par exemple, décider de passer de 3, par exemple, à 5 jours au bureau?
Non, ce que je dis, c'est à ce moment-ci que la décision de comment le télétravail, les opérations de télétravail continuent à être faites par la gestion, mais qu'on puisse faire la revue du télétravail puis qu'il y a une entente à l'extérieur de la convention collective pour qu'on amorce cette revue très importante qu'on a à faire prochainement.
OK, mais juste qu'on s'entende sur les principes là, pour bien vous comprendre. Vous êtes d'accord avec le maintien du télétravail, le principe du télétravail?
Complètement. Nous avons dit, et quand il y a eu la pandémie, on sait très bien qu'on était en train de travailler de la maison par nécessité. Et par la suite, quand on a recommencé, on a réalisé qu'il y avait des bénéfices de laisser les fonctionnaires travailler à partir de la maison, mais il y a également de grands bénéfices de travailler depuis le bureau. Alors, on veut avoir le meilleur des deux mondes, puis c'est ce qu'on tente d'avoir un télétravail ou un travail hybride qui va permettre d'offrir les meilleurs services aux Québécois et aux Canadiens.
OK, quelques questions. Je vous écoute, là, puis ça sent pas un règlement rapide, là. D'après, moi, je parle avec le syndicat, je parle avec vous. Je sais pas ce qui se passe à la table, mais ça sent pas une entente, là.
Ben moi, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de progrès. Comme je vous ai dit, on a commencé avec une position de 570 revendications.
OK, mais on là concrètement, moi, je pense aux gens qui nous écoutent. Je pense aux gens qui nous écoutent, là, que toute la question de l'immigration, la question des passeports, la question des déclarations de revenus, ils se disent, ça fait une semaine que la machine est au neutre, pas à 100 % mais quand même au ralenti. Est-ce que vous voyez un règlement d'ici la fin de la semaine?
Moi, je pense qu'il faut qu'on continue. Aujourd'hui, c'est une journée, je pense, qui va permettre de mettre tout sur la table encore, étant donné que la lettre ouverte a fait en sorte qu'on veut arriver à une entente. Les deux parties ont un point commun. Ils veulent offrir le meilleur service aux Canadiens. Donc, on met...
Oui, mais ça, Mme Fortier, là, Mme Fortier, avec respect, là, c'est du blabla, ça. Tout le monde veut le bien, puis tout le monde est au service, mais dans les faits, des gens qui attendent un passeport sont inquiets, puis les gens qui attendent, exemple, un remboursement se disent, malgré le discours, est-ce qu'on va le recevoir? Fait que c'est bien beau, là.
Je me permets de mentionner pour ceux et celles, à titre d'information, évidemment, ceux et celles qui font une réclamation en ligne pour ces impôts, ça ne sera pas touché. C'est pour celles qui sont présentées sur papier. Évidemment, il va y avoir présentement des délais. Mais je voulais mentionner que si vous faites votre demande en ligne, il n'y aura pas de délai.
Non, ça, j'ai compris ça, mais c'est 95 % des gens qui le font en ligne. Donc, vous me dites l'impôt. Pour les passeports, est-ce que vous êtes capable de m'en dire autant?
Non, les passeports, malheureusement, c'est pas un service essentiel qui a été négocié par les deux parties avant que la grève commence. C'est quelque chose qui se décide avant. Et les passeports, à part de ceux, évidemment, comme vous savez, c'est des demandes pour cause humanitaire ou d'urgence. Okay. Il n'y a pas de passeport qui peut être négocié, qui peut être présenté présentement.
Okay. Êtes-vous allé au bout du mandat? Est-ce que vous devez retourner voir M. Trudeau pour lui dire, là, je suis allé au max, est-ce que je donne plus? Est-ce qu'on pense à une loi spéciale? Qu'est-ce qu'on fait? Avez-vous tout mis ce que vous aviez entre les mains sur la table?
C'est une très bonne question. Merci. J'ai encore, évidemment, des marges de manœuvre. Je veux... continuer à la table, c'est la meilleure place pour pouvoir avoir une entente. Évidemment, on respecte, comme j'ai dit plus tôt, le droit des travailleurs de faire la grève, mais le fait qu'on est à la table, c'est là que l'équipe de négociation travaille très fort et va continuer à le faire. Et je sais qu'il y a une volonté du côté de l'Alliance et c'est là qu'on va mettre, comme je dis, tous nos efforts. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a encore plus de volonté, étant donné que les pressions font en sorte qu'ils nous regardent et nous demandent d'avoir une entente le plus rapidement possible.
OK. Donc, vous avez un peu de jeu. Dernière question. Est-ce que vous avez une date butoir? Est-ce que vous dites d'ici vendredi, il n'y a pas d'entente, on tombe dans un autre scénario?
J'ai malheureusement pas de boule de cristal. J'aimerais vraiment pouvoir vous dire à quel moment on va arriver à une entente. Je peux vous dire que on continue, puis... je sais qu'on va pouvoir avoir une entente le plus rapidement possible.
Mais ça veut rien dire.
Ben, je vous dis que j'ai pas de boule de cristal.
Non, je comprends, mais vous pouvez vous dire... Moi, mais Mme Fortier, on a le droit de se dire...
Deux parties.
Non, oui. Mais je comprends, mais vous pouvez vous me dire, écoutez, là, moi, après deux semaines de grève, on va avoir un problème. Si cette grève-là continue la semaine prochaine, le Canada, les Canadiens que vous voulez tant servir vont se sentir peut-être défavorisés. Ça arrive un moment où on dit, oui, on négocie, mais il arrive aussi un moment où on dit, ben là, on peut pas aller plus loin que ça. Puis ça, je vous demande, à quel moment?
Après une semaine, on voit comment il y a des pressions, l'anxiété est présente. C'est justement là maintenant le temps d'arriver à une entente. Puis c'est pour ça que cette semaine, moi je pense que c'est très crucial qu'on arrive à avoir une entente cette semaine.
Merci Mme Fortier. Bonne journée.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Mona Fortier est la présidente du Conseil du Trésor. Bon, d'abord vous dire que le métro fonctionne normalement ce matin. Il y a eu interruption hier de service. Et on prévoyait que c'était d'ailleurs pour durer pendant plusieurs heures. Je vais aller retrouver tout de suite Annie Guillemette, qui est présentement au métro Frontenac. Ce qui fait que finalement, Annie, ben, les usagers peuvent utiliser le métro ce matin.
Oui, mais ils sont pour le moins confus, Paul, parce que les gens ne le savent pas. Faut dire que la STM a mis sur Twitter après 5 heures que le métro était là ce matin, qu'il n'y avait pas besoin des fameuses navettes là pour se rendre, entre autres, au centre-ville. Donc, beaucoup d'usagers que j'ai rencontrés qui avaient déjà prévu un plan B. J'ai même vu un homme qui avait pris un autobus de nuit pour arriver à l'heure ce matin au travail. Donc, les gens étaient heureux, surpris, mais très, très confus. Et pour vous parler de cette confusion, Paul, j'ai vu un employé de la STM qui était planté là. Il attendait d'offrir du service à la clientèle avec des navettes ce matin. Il savait pas que le métro était repris. Donc, on comprend là que les nouvelles sont arrivées à la dernière minute et que beaucoup de gens se sont levés plus tôt, se sont dirigés ici à Frontenac pour prendre la fameuse navette. Finalement, ils ont pu prendre le métro à 5h41 comme prévu.
Parfait, Annie. On va se reparler tantôt. Vous dire, donc, il faut rappeler que la ligne verte était fermée entre Frontenac et Lionel-Groulx. Il y avait également cet enjeu pour le tunnel avec infiltration d'eau Berry-UQAM-Saint-Laurent et les poids lourds sur cette portion de Maisonneuve qui est interdite. Mais là, on est revenu donc à la normalité. La directrice générale de la STM est avec nous, Marie-Claude Léonard. Madame Léonard, bonjour.
Bon matin, M. Arcand.
D'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures là, qui ont amené le retour à la normale du service?
Bien, les équipes ont été à pied d'œuvre toute la nuit. C'est plus de 6 heures d'inspection avec différents spécialistes pour la voûte entre la station Berry-UQAM et Saint-Laurent. On a sculpté, on a martelé, on a observé. Donc, on a fait tomber le béton qui aurait pu tomber suite à différentes vibrations. On a inspecté, l'armature n'est pas recoupée, donc la structure est intègre, ce qui nous permet d'assurer ce matin de reprendre le service en toute sécurité pour notre clientèle.
OK. Si on revient un peu avec les événements d'hier, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a décidé de fermer le métro?
Bien, c'est un cumul d'informations. Donc oui, il y a eu de l'infiltration d'eau. Il faut que ça sèche. Il faut que la voûte puisse sécher pour qu'on puisse mesurer l'impact. Et là, on a vu les fissures. Donc c'est vraiment l'analyse de plusieurs experts où on a fait une réunion de coordination de mesures d'urgence où on, ne connaissant pas le risque ou la probabilité que le béton puisse s'effritrer, tomber, on a décidé de fermer le réseau entre Lionel-Groulx et Frontenac pour permettre à nos équipes de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Et on a demandé de limiter la circulation des poids lourds pour ne prendre aucun risque. Donc, c'était une mesure préventive pour aller inspecter l'État pour savoir si on pouvait continuer le service en toute sécurité.
Maintenant, est-ce qu'il doit y avoir d'autres experts ou d'autres analyses plus approfondies, plus espacées dans le temps pour voir un peu l'état réel de cette structure?
Bien, les analyses de cette nuit nous confirment que l'armature n'est pas touchée, donc la structure est intègre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du grillage. On voit de plus en plus ça, du grillage, hein, des fois qui retient la pierre, tout ça. On va venir mettre du grillage pour s'assurer que moyen et long terme, c'est correct. Et nos équipes vont poursuivre l'expertise, vont regarder des travaux qui sont nécessaires pour refaire le surfaçage de la voûte.
OK, parce que je voudrais amener ça un peu plus loin. Là, je sais qu'il est tôt, mais l'utilisation de grillage comme ça, on a vu ça à l'échangeur Turco. Puis à un moment donné, ben, ça tenait pas la route, donc il a fallu faire des changements majeurs, puis c'était des travaux importants. Est-ce que ça veut dire que dans le futur, il faut envisager, sur la ligne verte, des travaux là qui vont faire en sorte qu'il y aura des perturbations?
Mais il y a une probabilité, effectivement, là, suite aux analyses d'experts, en fonction des plans et devis qu'on va faire, il y a une possibilité qu'on réussisse à faire les travaux durant la période de nuit qu'on est fermé, mais il est trop tôt pour se prononcer. Mais oui, effectivement, on va devoir de reprendre des travaux, mais ça va être sur un cycle de plusieurs mois, voire années, là, pour la suite.
OK. En terminant, vos employés avaient l'air un peu mêlés ce matin. Ça se comprend, là, la décision est de dernière minute, je pense bien.
Bien, tout à fait. Là, on est à pied d'œuvre jusqu'à ce matin. On devait s'assurer que c'était sécuritaire autant pour nos employés, nos clients. On comprend que nos clients ont été perturbés pour le retour hier. C'est toujours dommageable de ne pas pouvoir retourner selon le service qu'on présume pouvoir utiliser. Donc, on s'en excuse auprès de nos clients. On est très empathique à la situation. Et oui, ce matin, là, peut-être que l'information n'a pas circulé, mais dès 5 heures, un communiqué a été émis. Nos médias sociaux ont été mis à jour. Il y a des communiqués internes qui ont circulé pour informer l'ensemble de nos employés.
Merci, Mme Léonard. Bonne journée.
Merci à vous, Monsieur.
Au revoir. Marie-Claude Léonard est la directrice générale de la STM. Donc, je rappelle, le métro fonctionne normalement. Et si vous lisez vos journaux ce matin, là, c'est pas ça du tout qui était prévu. Les experts disaient que ça prendrait 3-4 jours avant d'avoir une idée. Il y a des directions d'école qui avaient déjà passé le mot aux étudiants de s'organiser. Et peut-être ajouter que hier, je comprends là, que Uber, par exemple, fonctionne avec une tarification dynamique. Mais dans la réalité des choses, les gens se sont retrouvés parce qu'on a dû fermer d'urgence. Puis je comprends très bien une fermeture, là, tu veux pas jouer avec la sécurité des usagers. Mais le prix explose, il y a pas de bixi, les autobus, ils ont pas le temps de s'organiser. Puis les gens doivent se débrouiller comme cette auditrice là qui a marché de la station Guy jusqu'à Frontenac. Parce que, bon, il n'y a pas de taxi non plus. Ça a été, disons, extrêmement difficile. Puis c'est vrai que c'est... Mais il y a quelque chose que je trouve, moi, qui m'achale, là. C'est qu'une application comme Uber, là, qui, on le sait, s'est implantée de façon assez cow-boy à Montréal. puis a pris sa place. Puis c'est un service qui a eu des avantages aussi, là. Mais cette espèce de capacité d'empocher quand les gens sont dans le trouble, perso, je trouve ça assez ordinaire. C'est pas à faute des chauffeurs, là. C'est le système qui fonctionne comme ça.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, on a beaucoup parlé de cette enseignante de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de l'école Les Grands Vents, qui a hurlé, c'est le cas de le dire, dans une classe du primaire, des élèves de 6 à 7 ans. C'est Cube Radio qui a présenté hier des enregistrements qu'on va écouter. Et après quoi, on va parler avec la directrice générale du Centre de services scolaires des Mille-Îles. Mais disons que ce genre d'événement a fait sursauter beaucoup de parents. Bon, avec nous, Nathalie Joannette, qui est la directrice générale du Centre de services scolaires des Mille-Îles. Madame Joannette, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Première question, qu'est-ce qui se passe avec cette enseignante?
Écoutez, premièrement, je viens de réécouter, comme vous, là, l'enregistrement. Je suis choquée, je suis abasourdie. Ça n'a juste aucun bon sens, là, ce qui se passe actuellement, là, dans ce qu'on entend dans l'enregistrement. Cela dit, c'est important pour moi de vous dire qu'on a pris connaissance de l'enregistrement en même temps que le public hier vers l'heure du dîner. Et déjà, on a déployé l'ensemble de nos mesures d'urgence parce que notre priorité numéro un, vous auriez compris, c'est nos élèves et notre personnel de cette école-là. Alors, première action qu'on a posée, ça a été de se rendre sur les lieux. On a des gens qui ont été directement sur les lieux. Notre direction d'école aussi, qui a été en contact avec notre équipe d'intervenants au centre de services scolaires, pour être capable de mettre en place une équipe d'intervenants pour nos élèves et notre personnel, rédiger un communiqué pour pouvoir rassurer nos parents. Et très rapidement, dès hier après-midi, on rencontrait la dame en question. Et je peux vous confirmer qu'elle est actuellement là suspendue pour des fins d'enquête, bien sûr, pour un moment indéterminé, le temps qu'on fasse la lumière là, sur l'ensemble de la situation.
Est-ce que c'est vrai qu'elle n'est plus en classe depuis jeudi dernier ou vendredi dernier?
Exact. Elle était absente jeudi, vendredi dernier, mais nous, on l'a rencontrée hier après-midi à 14h, l'équipe des ressources humaines.
Pourquoi elle était absente jeudi et vendredi dernier?
En fait, c'est une décision que la direction d'école avait prise. Vous devez savoir que la semaine dernière, la direction a été interpellée pour a été informée qu'il existait un enregistrement que la direction avait demandé pour lequel elle n'avait pas eu accès. Et elle a pris l'initiative de retirer madame, donc dans un geste de prévention, de communiquer avec les ressources humaines immédiatement pour qu'on puisse organiser une rencontre dès ce lundi, donc hier, pour pouvoir questionner madame, aller chercher sa version des faits.
OK. Je suis pas sûr que je vous suis complètement, là. Vous me dites que la direction d'école a été informée jeudi dernier, qu'on a informé les ressources humaines, donc on savait qu'il y avait un enregistrement d'une enseignante qui hurlait, puis vous m'avez dit tantôt que vous avez découvert ça hier midi.
Exact.
Mais comment ça se fait que la direction de l'école, ça n'a pas remonté jusqu'à vous, ça?
Ben, c'est une question que je me pose, M. Arcand. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, là, je me pose 1 million de questions, probablement les mêmes que bien des parents et bien des gens de la population. Alors, qu'est-ce qui a été entendu de la part du personnel? Qu'est-ce qui a été entendu de la part de la direction? Qui a fait quoi là-dedans? Cette dame-là, je peux vous dire que ça fait 4 ans qu'elle est à l'école. Elle enseigne depuis 25 ans. Alors, j'ai une série de questions où on regarde actuellement avec nos autres directions d'école, les autres écoles dans lesquelles elle a travaillé. Je suis outrée, là. Vous comprendrez que je tombe en bas de ma chaise.
Ouais, mais moi, je vais essayer de comprendre comment ça marche, là. Là, il y a une enseignante qui gueule et qui gueule après ses élèves. Les gens de l'école savent qu'il y a un enregistrement. À un point, on décide de rencontrer. Est-ce que je comprends qu'elle a été suspendue dès jeudi dernier, puis qu'elle s'est pas présentée en cours le vendredi non plus?
Non. Premièrement, le personnel, M. Arcand, personne ne savait. En fait, on n'avait pas entendu l'enregistrement. L'équipe école non plus. Là, hier, à l'heure du dîner, quand ça a sorti, là, personne n'avait entendu l'enregistrement. et on n'avait pas de parents, dans l'information que je possède, je suis prudente actuellement, parce que je vous dis, là, j'ai plein de questions, moi aussi, de mon côté.
Okay.
Mais dans l'information que je possède ce matin, les gens ne savaient pas qu'est-ce qui s'était passé et il n'y avait pas de parents.
Mais ils l'ont rencontré pourquoi?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ils l'ont rencontré jeudi, vous m'avez dit, la direction de l'école. Ils l'ont rencontré pour quelle raison?
La direction a informé, dans l'info que je possède, a rencontré l'enseignante la semaine dernière pour l'informer actuellement qu'il y avait un enregistrement qui circulait, pour regarder ce qu'elle avait à mentionner. Et madame a fait le choix de s'absenter pour le reste de la semaine.
Mais madame Joannette, ce que je comprends, c'est qu'un parent qui a vu son enfant arriver à la maison en larmes puis qui a dit « ça n'a pas de bon sens, une attitude comme ça », et pour prouver ça, a placé un appareil pour enregistrer ce qui se passait en classe. Ce que vous me dites, puis là j'insiste là-dessus, jeudi dernier, même si on ne l'a pas entendu, là, l'école sait qu'il y a un enregistrement, la direction, là, qui montre un prof qui gueule. Vous, vous êtes la directrice générale du centre de service scolaire, puis vous ne le saviez pas du tout avant hier midi qu'un enregistrement comme ça existait?
En fait, je savais que la direction générale adjointe avait été informée que le directeur avait été interpellé par un journaliste la semaine dernière pour l'informer qu'il y avait un enregistrement qui circulait. C'est la raison pour laquelle on a déclenché tout de suite un rendez-vous avec l'enseignante pour qu'on puisse la rencontrer hier après-midi à 14h.
Là, j'ai des questions très précises.
Oui.
Dans cette école primaire, quand quelqu'un hurle comme ça, c'est à peu près impossible qu'il n'y ait pas personne qui a entendu quelque chose.
Je suis à la même place que vous et je me pose la même question que vous, M. Arcan. D'où l'importance de l'enquête qu'on a déclenchée là, dès hier après-midi.
OK. Vous êtes d'accord pour dire avec moi que quelqu'un qui hurle comme ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont entendu dans l'école?
Bien, j'ai peine à croire que personne ne l'aurait entendu et c'est la raison pour laquelle on va aller faire enquête là-dessus. Faire la lumière le plus rapidement possible.
Parce que
c'est impossible pour moi qu'un enfant soit pas dans un milieu sécuritaire.
Mais ça, on est d'accord. Mais moi, je vous parle de l'environnement. Ça veut dire qu'il y a des gens dans cette école qui ont fait le choix délibéré de taire ce qui se passait dans cette classe-là, qui ont entendu crier et qui ont rien fait.
Ben, Monsieur Arcan, vous comprendrez, là, je me pose ces questions-là, puis avant de juger puis de porter un jugement, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller voir ce qui s'est passé.
Mais je vous dis,
c'est pas le procès aujourd'hui.
Non, mais moi je fais pas le procès, mais Madame Joannette, je vais vous donner un exemple. Vous me dites cette enseignante est là depuis 4 ans. Hein?
Oui.
Si je vous dis moi qu'il y a un parent qui m'écrit et que son enfant était là dès la première année de ce prof dans cette classe là et que ça fait minimum 3 ans que ce prof là gueule. Que d'autres parents ont déjà soulevé le point à la direction de l'école. Je sais pas qui était là à ce moment-là. En disant que il se faisait répondre que c'était la perception de l'élève. Si je vous dis que d'autres enseignants qui ont essayé d'alerter la direction des problèmes générés par cette enseignante, est-ce que vous tombez en bas de votre chaise ou si vous dites c'est possible?
Ben, je tombe en bas de ma chaise, premièrement, parce que j'ai une direction d'école d'expérience dans cette école-là. Et soyez assurés que l'enquête va aussi couvrir ces éléments-là. On est dans un milieu d'éducation, M. Arcan. C'est important que nos élèves se sentent en sécurité, mais c'est aussi important que nos parents se sentent en sécurité pour envoyer l'enfant à l'école. C'est fini les années de tabou, là. C'est fini de garder des éléments secrets si on n'est pas capable de mettre en place des milieux sains et sécuritaires. Alors, vous avez ma garantie ce matin qu'on va faire la lumière sur la situation, puis il y aura les mesures qui vont s'imposer vont être mises en place. Parce que je veux pas que ça se reproduise dans aucune école. Au CSSMI, là, on a 5500 enseignants. Alors, vous comprendrez que tous nos enseignants travaillent avec passion et avec cœur. C'est une situation qui, actuellement, n'est pas représentative de ce qui se passe dans nos classes.
Mais ça, je suis d'accord.
Il faut dénoncer.
Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis le premier à vous dire, je connais pas cette enseignante. Peut-être qu'elle est à bout. Peut-être qu'elle a trop de pression. Peut-être qu'elle est en burn-out. La seule affaire qu'on sait, c'est qu'elle doit pas se retrouver dans une classe pour enseigner quand elle est incapable de le faire correctement. Mais moi, ce qui me préoccupe, là, si vous me parlez de tabou, j'ai vu beaucoup de cas de tabous dans les écoles, de profs qui dénoncent puis qui se font asseoir par la direction parce que c'est pas bon pour l'image de l'école. On ne faut pas entendre parler de ça. J'ai de la misère à croire que, jour après jour, une enseignante comme ça, parce que ça s'est étalé quand même sur une certaine période de temps, il y a personne qui a levé le drapeau, qui a dit à la direction « Hey, il y a un problème avec elle. »
Mais monsieur Arcan, vous avez raison, c'est fini en 2023 les tabous. Puis quand j'entends que bon, il y a des gens qui ont peur de parler, puis vous savez monsieur Arcan, Ça fait 34 ans que je suis en éducation. J'ai été prof, j'ai été direction. J'ai fait plusieurs fonctions là, dans mes années. Et j'ai toujours tenu le même discours. On ne peut pas cacher de l'information qui fait en sorte qu'on a, on ne permet pas à nos élèves et à notre personnel de vivre dans des milieux sains pour pouvoir apprendre, pour que nos élèves apprennent. Alors, la loi là du silence, c'est tolérance zéro au CSSC. Okay. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis, je me pose 1 million de questions, puis ma priorité depuis hier, c'est vraiment de mettre toute mon équipe à la disposition pour être capable d'aller le plus loin possible puis faire la lumière le plus rapidement possible sur ce dossier-là.
Si vous voulez mettre la lumière, une question bien simple. Pourquoi depuis hier, quand on appelle au centre de service scolaire des Mille-Îles, la réponse n'est pas d'entrevue? Après ça, on nous dit quelqu'un des relations publiques. Moi, j'aime mieux parler à quelqu'un comme vous qui êtes la personne qui est en charge, qui décide. Pourquoi ça prend le parcours du combattant pour être capable de vous parler ce matin?
Ben, la bonne nouvelle, je suis là, monsieur.
Non, je le sais, mais moi, je veux savoir pourquoi c'est si compliqué.
Ben, en fait, là, je peux pas parler pour l'ensemble des centres de services, mais je peux vous dire chez nous que quand un journaliste communique avec nous, on se fait un devoir de répondre. Peut-être qu'on répond pas toujours dans la façon ou la forme que vous souhaiteriez, mais entendez.
Mais c'est pas que je souhaite. Moi, j'aime mieux parler à vous. C'est vous, la directrice générale. J'aime mieux ça que de parler à quelqu'un qui va vous voir puis qui vient répondre à votre place aux questions. C'est plus efficace, c'est plus efficace de même, je pense.
Ben, je comprends. Alors, on s'entend bien ce matin. Puis, comprenez, dans le fond, là, j'aimerais terminer mon message, si vous permettez, M. Arcan. Oui. Peut-être en m'adressant aux élèves, pas aux élèves, aux parents, mais aussi au personnel. On est en enquête actuellement. Alors, si vous possédez des informations de quelque nature que ce soit, je vous invite, en tout cas, à communiquer avec votre direction d'école, à communiquer avec le centre de service scolaire. Mais l'important, c'est de faire la lumière le plus rapidement possible sur ce dossier-là, pour qu'on puisse là permettre un milieu sécurisé pour nos élèves.
OK, puisque vous êtes là, puis malheureusement le temps file là ce matin, mais il y a des parents, puis on l'a vu là avec la sortie de la députée Marois Risky, qui voient les montants chargés pour le dîner dans certains cas là, pour des familles, ça peut passer de 460 $ à plus de 2000 $. Est-ce qu'on est dans ces prix-là?
Effectivement, mais ça, j'aimerais ça, si on pouvait avoir un temps de qualité parce que...
OK, m'en faire une affaire avec vous. On se parle directement. Je vous invite demain à venir me parler de ça, c'est correct?
Je regarde ça, puis on se parle demain, M. Arcan, avec grand plaisir.
Je m'attends un oui. Merci beaucoup.
Vous avez mon oui. Bonne
OK,
journée,
parfait, c'est réglé. Alors, on va revenir sur les... C'est vrai, ça mérite plus de temps là pour, disons, approfondir cette question-là. Alors, c'était Nathalie Joannette, directrice générale du Centre de services scolaires des Mille-Îles. Puis, je vous le dis, depuis hier, je reçois des courriels. Et notamment, puis je fais attention, pas identifier les personnes parce que les enfants sont toujours dans le réseau, là. Mais ce sont des événements qui datent depuis quelques années concernant ce prof-là, en tout cas d'après les témoins, d'après ce qu'on a. Puis la question la plus importante, est-ce qu'on peut penser que quelqu'un qui gueule de même, on ne l'entend pas? Puis qu'on est dans une école primaire, difficile à croire.
L'essentiel de Paul Arcan.
Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en tenant toute la question de l'avortement, on sent et on perçoit ce vent de droite qui souffle. De plus en plus, c'est compliqué pour des femmes de faire respecter ce droit, puis c'est compliqué aussi d'avoir accès tout court à l'avortement. La ministre responsable de la condition féminine au Québec, Martine Biron, veut légiférer, on ne sait pas encore précisément la direction, mais pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive qui nous touche ici au Québec et qu'on respecte vraiment ce droit des femmes à l'avortement. Elle est avec nous ce matin. Martine Biron, bonjour.
Bonjour.
La première question, qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment? Comment vous pouvez intervenir?
Ben, il y a différents moyens, je dirais, mais je pense que c'est important de rencontrer les acteurs de la société civile pour en fait trouver justement le bon moyen. C'est sûr que je suis législateur, j'aimerais bien légiférer, mais je pense qu'au moment où on se parle, le Québec ne peut pas tenir pour acquis que le droit des femmes de choisir l'avortement ne sera jamais remis en question au Canada. Et je pense que le Québec doit s'occuper de ses propres affaires et poser ce geste-là, un geste fort.
Quand vous regardez la jurisprudence, est-ce que vous vous dites qu'il y a des risques de contestation qui pourraient nous toucher ici, que le droit à l'avortement... On a tous l'impression là, que c'est enchâssé, que c'est solide, mais qu'il est en même temps fragile.
Oui, assez fragile parce que, bon, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Roe v. Wade, ce jugement a été rendu en 1973. Il a été attaqué régulièrement au fil des ans. 49 ans plus tard, le jugement a été renversé. Ici, au Canada, on est dans une situation différente. En 1988, l'avortement a été décriminalisé. Ça fait donc 35 ans. Mais quand même, Paul, je vous dirais qu'il y a eu 48 tentatives pour tenter de limiter le droit de choisir des femmes au fil du temps par différents dépôts de projets de loi privés de différents députés. Actuellement, il n'existe pas de loi fédérale qui protège le droit des femmes à l'avortement au niveau canadien. Puis je dirais qu'il y a même une entente tacite que le gouvernement ne légiférera pas pour restreindre ce droit-là. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qui me dit qu'en changeant de gouvernement, qu'est-ce qui me dit qu'en évoluant... En fait, on dit souvent que quand les États-Unis éternuent, on pogne le rhume, nous autres ici au Québec ou au Canada. Je me dis, le climat actuel, il est inquiétant. Alors moi, je pense que à tout le moins, il faut poser un geste fort, parce que si jamais au fédéral, on décidait de légiférer, ben le Québec sera sur le chemin.
OK, mais quand vous me dites un geste fort, là, on peut le regarder de trois façons. La première, vous exprimez comme vous le faites aujourd'hui. Deux, un projet de loi. Puis trois, modifier la Charte québécoise. Vous êtes à quel endroit?
Je suis pas mal dans ces eaux-là, je dirais. Ce que je veux faire d'abord, là, c'est que je veux consulter la société civile, voir qu'est-ce que les gens du secteur de la santé, les groupes de femmes, les gens qui sont dans le juridique, le Barreau du Québec, par exemple, pensent de ce geste-là. Quel type de geste pourrait être fort? Est-ce que c'est sûr que je suis législateur? Mon souhait, ce serait de légiférer. Jusqu'où on va, on verra. Mais je pense que la discussion devrait être engagée. Puis c'est ça que je veux faire. Discuter, okay. Puis ça va arriver au mois de septembre ou octobre, c'est-à-dire à l'automne, où je vais prendre une décision finale. J'ai l'appui de Simon Jolin Barrette dans ce dossier-là qui a mis en place une équipe de juristes qui m'aide et qui m'accompagne dans le processus.
OK, mais ça veut dire que vous excluez pas un projet de loi ou encore une modification à la charte?
J'exclus rien. Okay. Et je pense que je suis au bon endroit, Paul, parce que je me suis au sondage de 2022 léger avant le renversement de Roe v. Wade qui disait que 89% des Québécois et Québécoises, hommes et femmes inclus, estiment qu'il faut respecter le droit des femmes de choisir. Alors, je pense qu'on est au bon endroit et c'est le bon moment de le faire. C'est pas quand c'est contesté ou revu que c'est le temps de se positionner, mais en le faisant maintenant, je pense que ça va être assez clair où le Québec se situe sur
mais
cet enjeu-là.
Il y a une autre réalité. Reconnaître un droit, c'est une chose. Mais d'avoir accès à une clinique d'avortement, par exemple, pour faire respecter ce droit, c'est autre chose. On voit des provinces au Canada, là, dans les Maritimes notamment, qui reconnaissent le droit, mais c'est à peu près impossible pour une femme là-bas d'avoir un avortement, disons, dans un rayon qui est raisonnable. Comment vous allez faire pour vous assurer que des cliniques d'avortement qu'on retrouve ici au Québec et qui ont parfois à se battre pour obtenir du financement, à se battre pour se protéger contre des groupes de droite qui manifestent, parce qu'on veut limiter l'accès aux femmes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour dire à ces cliniques puis les rassurer en disant on va prendre les moyens, que c'est pas juste reconnaître un droit, mais c'est qu'on va favoriser l'accès?
Je vais vous dire deux choses là-dessus. D'abord, au Québec, on a une cinquantaine de cliniques d'avortement. Ceux qui nous suivent, c'est l'Ontario avec 26 cliniques d'avortement. Alors, on est déjà de loin l'endroit où il y a le plus d'accès. On va avoir, bien sûr, dans cette discussion-là, dans cette conversation-là, dans les prochaines semaines, ça va faire partie, là, l'accès. On va également probablement parler de la pilule abortive qui est peut-être mal connue. Des différents outils qui s'offrent aux femmes qui sont moins connus. L'autre chose que je vous dirais sur la question de l'accès, c'est que Christian Dubé, que j'ai consulté d'ailleurs dans ce projet-là, vous avez vu son projet de loi sur la réforme de la santé. En une phrase, son projet à Christian, c'est donner plus d'accès. Alors, on peut légitimement penser que les droits des femmes ou la santé des femmes sera prise en compte.
OK. Il y a aussi, c'est un autre volet, là, c'est la violence conjugale. La presse dit ce matin, à partir des propos de vos collègues libérales, là, que les maisons d'hébergement débordent pour les femmes qui sont victimes de violences puis qu'on peut pas accueillir, qu'on peut pas héberger.
Oui. Ça, évidemment, ça me préoccupe beaucoup. Il y a quand même eu beaucoup d'argent qui a été mis au cours du dernier mandat. En fait, depuis 2018, le gouvernement du Québec a mis à peu près 950 millions de dollars pour contrer la violence conjugale. Il y a un autre 30 millions supplémentaires qui a été accordé dans le dernier budget. On est conscient qu'il y a des problèmes de logement puis d'accueil pour les femmes violentées, mais on a mis en place un réseau qui est presque complété d'urgence. Aucune femme ne sera laissée seule. Alors, avec cette aide d'urgence-là, on peut aider les femmes à être placées dans des hôtels dans les différentes régions où elles se trouvent. Et là, on essaie de trouver une solution plus pérenne à leurs problèmes. Mais c'est certain qu'on est bien conscient que les femmes ne peuvent pas retourner dans leur maison à elles, avec leur agresseur, dès qu'elles sont prêtes à dénoncer. Alors, on a différents moyens, je dirais, d'urgence pour pouvoir accueillir ces femmes-là et les aider sur le coup.
Je sais que vous avez un caucus ce matin avec vos collègues de Chaudière-Appalaches et de Québec et le premier ministre. Ce matin, on peut lire qu'on s'attend à ce que M. Legault s'excuse, fasse son mea culpa. Vous, vous attendez à quoi?
Ben, je ne sais pas. Je vais écouter attentivement. Alors, on va tous être là, l'ensemble de Québec et de Chaudière-Appalaches. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est sûr que moi, je suis déçue de cette décision-là. J'ai milité pour le troisième lien pendant la campagne électorale. Je suis déçue. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne tient pas ses promesses? Généralement, on essaie de compenser. C'est ce que j'ai fait, moi, dans ma vie quand ça m'est arrivé, parce que j'accorde quand même une certaine importance à tenir mes engagements, mais ça arrive qu'on peut pas le faire. Alors, je m'attends à une compensation. J'estime que les citoyens des chutes de la Chaudière actuellement, ils n'ont pas leur part du gâteau avec le retrait de ce projet-là. Et je veux que les citoyens des chutes de la Chaudière et de Chaudière-Appalaches, toute l'ensemble de la région, aient leur part. Alors, ça va être ça, moi, mon message. Je trouve qu'il y a un déséquilibre au moment où on se parle qu'il faut compenser.
En d'autres termes, vous allez dire au premier ministre, maintenant que tu as coupé le projet de 10 milliards, je veux m'assurer qu'il y aura des investissements dans des projets, dans des infrastructures dans mon comté puis dans la région.
Exactement. Les gens sont déçus dans ma circonscription. Puis je pense qu'il faut leur rendre, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé une promesse, on leur a promis quelque chose, on n'est pas capable de le faire. C'est ça qu'on fait quand on n'est pas capable de remplir ses promesses. On compense, on dit, ben garde, j'ai pas pu faire ça, mais je vais faire ça à place.
Mais est-ce que vous voulez que le PM s'excuse de la façon dont ça a été géré, que les députés ministres n'ont pas été mis dans la boucle, comme on dit?
Ben, je vais entendre ce que le premier ministre va dire. Ça, je pense que c'est primordial. Je pense que je vais le laisser parler, puis après, peut-être que je pourrais passer des commentaires, mais là, je vais y aller au caucus ce matin à 8h30, puis je vais entendre ce qu'il va me dire.
OK. Dernière question là-dessus. Moi, j'ai eu l'impression, au départ, que vous étiez contre le troisième lien, que vous êtes présenté pour la CAQ, qu'on vous a convaincu d'être pour. Puis là, c'est encore plus décevant quand on dit « ils m'ont convaincu, puis ils tirent la plogue ».
Non, j'étais pas contre le troisième lien. Je pense que c'est pas le cas. Dans ma région, on le veut, surtout les gens d'affaires qui le voulaient. Écoutez,
mais vous n'étiez pas enthousiasmé par le troisième lien au départ?
Attendez, Paul. D'abord, il y avait d'abord, les ponts étaient congestionnés. C'est vrai que le trafic de l'été, puis ça va être comme ça l'été prochain aussi. Mais plus que ça, on parlait des suspentes du pont Pierre-Laporte, qui était affaibli. Moi, dans ma tête, si vous vous rappelez le point de presse que j'ai fait le 10 août, quand je me suis présentée en politique, j'avais dit, ça prend un lien de remplacement. Ça prend autre chose. Le pont de Québec est toujours au CN, toujours pas vendu au gouvernement du Canada. Il y a des travaux importants à faire dessus. On parlait beaucoup des suspentes sur le pont Pierre-Laporte. Le pont Pierre-Laporte, c'est le seul pont qui reçoit du transport lourd. Alors, je me disais, c'est certain que ça prend un autre lien. Ça prend un autre accès pour les citoyens, quelque chose de moderne. Alors, quand je l'ai vendu et quand je l'ai défendu, j'y croyais. Je m'attendais pas à ce qu'on tire la plug sur ce projet-là. Okay. Vraiment pas.
Martine Biron, merci. Bon caucus.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Martine Biron est la ministre de la Condition féminine de la francophonie et des relations internationales.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi,
Votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On poursuit avec une demande d'accès à l'information que Radio-Canada a formulée pour obtenir des chiffres concernant ce qu'on appelle des fouilles complètes. Pas une fouille à nu, là, mais quand même, on parle de fouilles complètes. Il y en a eu en 2022 dans les centres jeunesse, 5700. Et là, j'entends les deux parties, là, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui dit que c'est inacceptable. Ça prend des motifs très graves, très sérieux, très précis pour faire ça. Puis j'entends des intervenantes qui, depuis hier, me disent « Ouais, mais c'est pour éviter, par exemple, que de la drogue entre dans les centres, que des armes soient également utilisées à l'intérieur, notamment pour des jeunes qui veulent s'automutiler. » Avec nous ce matin, la présidente de cette commission qui a donc enquêté sur l'état des services aux jeunes au Québec, Régine Laurent, est avec nous. Bonjour, Régine.
Bien le bonjour.
5700 fouilles en 2022. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Comment tu vois le chiffre puis les raisons qui entourent ces fouilles?
Je peux pas dire que je sois très surprise. C'est une des raisons pour lesquelles on avait rapidement demandé qu'il y ait une DPJ nationale. Et si vous me donnez 30 secondes, je vais vous expliquer pourquoi.
Allez-y.
Et ça vient de beaucoup de témoins qu'on a entendus en audience. On a dit ça prend quelqu'un au national qui va avoir la responsabilité de regarder les pratiques en protection de la jeunesse, qui va s'assurer que les normes sont respectées, qui va exercer un contrôle. Et ça, quand le ministre Carman a changé la loi sur la protection de la jeunesse comme on l'avait demandé, la DPJ nationale a des pouvoirs. Fait que moi, je suis contente de vous parler ce matin là, mais la DPJ nationale doit nous dire où ça en est. Parce que le problème, je reviens à l'article de la presse, là, on nous dit que presque tous les CIS et CIUS n'ont pas été en mesure de fournir les données.
C'est vrai.
C'est un des problèmes majeurs. Si on n'a pas les données de partout au Québec, comment est-ce qu'on peut avoir un regard juste et voir où il faut changer les choses, voir où il y a des bonnes pratiques pour être capable de les harmoniser partout au Québec? Parce que je vous rappelle que le premier chapitre de notre rapport s'appelle « Respecter et promouvoir les droits des enfants ». Alors, on comprend que les enfants qui sont en réadaptation en centre jeunesse, oui, il faut assurer leur sécurité, mais quelles sont les normes de pratique qu'on met en place pour s'assurer du respect de l'enfant, que ça vienne pas leur donner le sentiment d'être humilié, qu'ils n'en fassent pas des cauchemars. Alors, si on n'a pas les données d'une année à l'autre, pour la province de Québec, comment on peut agir?
OK, je partage avec toi, et c'est une synthèse là de commentaires que j'ai reçus d'intervenants qui me disent, quand on fait ça, puis là, on me donne un exemple, là, une jeune qui est enceinte, qui est reconnue pour avoir des idées suicidaires, qui s'est automutilée, qui a droit à une sortie en famille, qui revient au centre, on lui dit, écoute, montre-nous ce que tu as dans tes poches, qui veut pas... Puis on l'a fouillé comme ça, puis on a trouvé des lames de rasoir, puis ça nous a permis peut-être d'éviter le pire. L'intervenante ce matin, là, qui écoute, se dit, mais comment moi je vais encadrer ma pratique quand j'interviens, puis quand je laisse faire?
Mais justement, c'est pour ça, parce qu'il y a des rencontres avec la DPJ nationale et tous les DPJ régionaux pour dire, par exemple, dans ce cas-là, vous et moi, on est d'accord qu'il faut cette fouille-là pour la sécurité de cette jeune fille-là. Dans d'autres cas, est-ce qu'on a des questions à se poser? Est-ce qu'il y a peut-être une autre façon d'arriver à ses fins pour pas que le jeune ou la jeune se sente jamais cru, toujours en suspicion? En protection de la jeunesse, il n'y a jamais rien qui est complètement tout noir ou tout blanc. On est toujours dans les nuances. Et c'est une loi qui est très intrusive. Raison de plus pour vraiment encadrer la pratique, pour s'assurer que partout, tout le monde agit toujours en pensant aux droits de l'enfant qui est pris en charge par l'État.
Faut pas que ça soit une mesure disciplinaire, tu sais. C'est quelqu'un, mettons, qui est rebelle un peu, puis tu dis, ben, viens ici, m'a te montrer qui est l'autorité, puis je vais te faire une fouille complète, là.
C'est ça, mais je reviens encore, ça a l'air banal, je reviens encore aux données presque tous les CIUS et CIUS ne pouvaient pas nous donner dans quel moment ça se passe, pourquoi, quelles circonstances, c'était quoi le profil de ces centaines de jeunes, c'était quoi le profil? Est-ce qu'il y a un profil particulier où on dit ça, on pourrait agir autrement? Mais tant qu'on n'a pas le portrait, on peut pas le faire. Et je reviens, ça, vous devez absolument parler à la DPJ nationale.
Régine, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Régine Laurent, qui a présidé cette commission d'enquête, qui est aussi aujourd'hui analyste à LCN.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.